Alors le thème jusqu'à décembre, ça va être donc apprendre à vivre, apprendre à mourir. Alors j'aurais peut-être dû mettre apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir, parce que ça fait un peu je vais vous apprendre la vie. Alors que c'est pas du tout le. C'était vraiment pour mettre en opposition. Comment dire, pour vivre de manière positive, il est important de quelque part comprendre l'impermanence, comprendre le fait qu'on va tous partir un jour, c'est ça l'idée. C'est comment dans le bouddhisme on va réfléchir, méditer sur l'impermanence et la mort pour que ça nous donne des clés de façon à voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, qu'est-ce qui est finalement précieux, qu'est-ce qui est vraiment important, et ça va nous permettre justement de voir quelles sont nos priorités. Sachant que on sait tous qu'on va devoir partir un jour. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Voilà. Et on en est certain. Et on est certain qu'on va tous partir un jour. Et on sait aussi qu'on ne connaît pas le moment de notre mort. Ça, c'est la double certitude. On sait qu'on va mourir et on ne sait pas quand. Personne ne peut savoir ça. Et dans le bouddhisme, ce n'est pas pour nous plomber qu'on va nous parler de ça. C'est au contraire pour nous montrer que si on est de passage, si tous les êtres qu'on rencontre sont de passage, la mort n'est pas vue comme quelque chose de grave. Au sens, la mort n'est pas vue comme quelque chose qui serait une sorte de punition, un châtiment. Voilà, parce que toi t'es gentil, t'auras une vie longue. Toi, t'es méchant, t'auras une vie courte. Ça marche pas comme ça. On voit que tout le monde meurt un jour, personne ne sait quand, et c'est pas une histoire de punition, de châtiment. Dans le bouddhisme, on n'envisage pas qu'il y ait une entité divine extérieure à nous-mêmes qui décréterait que celui-là, il mérite de vivre, celui-là, il mérite de mourir. Non, en fait, la mort, elle est considérée comme un processus tout à fait naturel dans le dharma. C'est la conséquence tout à fait logique du fait de naître. Si on est, on meurt un jour, et c'est pareil pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de mal ou de bien en soi. C'est la vie. C'est une loi naturelle de la vie. On ne sait pas en fait combien de temps on va vivre. Peut-être qu'on aura une vie longue, peut-être qu'on aura une vie courte, mais ça, personne ne sait. Même si on est jeune et en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une vie courte. Là non plus, on ne peut pas faire de pronostic, on ne peut pas faire même de statistiques en se disant oui, mais bon, il y a quand même plus de chances que je parte après mes parents. En fait, pas tant que ça. On n'en sait rien. C'est vrai que là, en ce moment, on pourrait se dire, à cet instant même, il y a d'innombrables êtres qui partent. Et peut-être qu'il y en a qui s'y attendaient, que c'était prévisible parce qu'ils sont très âgés, en mauvaise santé, etc. Mais en même temps, il y a d'innombrables êtres qui partent là maintenant et qui s'y attendaient pas du tout. Que rien, voilà, il n'y avait pas de signe précurseur, parce que probablement, enfin peut-être qu'il y en a qui étaient très jeunes, en bonne santé, enfin voilà, mais un accident, n'importe quoi peut arriver qui fait que notre vie s'arrête là. Et le Bouddha, il dit, le corps, c'est très fragile. Au point que, il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse pas être une cause de mort, finalement. Même un grain de sable. Au mauvais moment, au mauvais endroit, une piqûre de guêpe ou quelque chose. Ça peut provoquer l'arrêt de la vie. Donc voilà, je mets l'ambiance hein, pour ce début d'année. Mais dans le bouddhisme, on ne réfléchit pas sur la mort de façon morbide. Bien sûr, pour comprendre comment ça peut en quoi ça nous apporte quelque chose d'intégrer cette réalité, faut quand même comprendre notre condition. Et c'est important de comprendre que dans le dharma, il ne s'agit absolument pas de quelque chose qui est mauvais en soi, qui serait un mauvais karma, qui serait, Voilà, tu t'es pas bien comporté, donc tu vas, voilà, t'auras une vie courte, c'est pas comme ça. Par contre, il est important pour nous de se préparer à ça. Alors le thème que je vais développer jusqu'à décembre, c'est de. Donc l'idée, ça serait que dans un premier temps, on va parler de l'impermanence, du fait que tout change tout le temps, de comment on peut intégrer justement cette notion d'impermanence, de mort, et puis en quoi ça va nous être précieux. Ensuite, je vous propose de voir comment le bouddhisme voit les états post-mortem, parce que dans le dharma, la vie est une expérience, mais la mort aussi est une expérience. Le bouddhiste ne voit pas la mort comme une fin en soi. C'est effectivement la mort du corps, au sens où le corps ne peut plus être un soutien pour la conscience, mais la conscience continue. On affirme dans le bouddhisme qu'il y a une vie psychique post-mortem. Donc on considère que la vie est une expérience, mais que la mort aussi est une expérience. Et que l'état post-mortem est aussi une expérience. Et ensuite, ça revient. C'est cyclique. Il y a. On va parler donc de bardo. Bardo, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Donc le terme bardo qui est utilisé en bouddhisme, ça veut dire intervalle. Ça veut dire un entre-deux. Et donc le bouddhisme va définir les aspects de nos existences en termes d'entre-deux, en termes de bardo. Alors il va parler du bardo de la vie. Ensuite, il va parler du bardo de la mort, qui en fait est le moment. Ça commence en fait au moment de la dissolution des éléments, qu'on pourrait appeler chez nous l'agonie. C'est-à-dire quand on sait au niveau médical que en fait quoi qu'on fasse, c'est la fin. C'est vraiment on va dire la fin de vie. À partir de là, il n'y a pas de retour en arrière, et donc du coup, on va parler de la dissolution des éléments et ce moment-là jusqu'au moment de la mort. On appelle ça le bardo de la mort. Ensuite, on va parler du bardo du dharmata. Le bardo du dharmata, c'est que au moment de la mort, on pourrait assimiler ça à un coma, une perte de conscience. Pour la plupart des gens, le moment de la mort, c'est un peu comme le moment du sommeil. Il y a des personnes qui sont très avancer spirituellement et donc du coup qui peuvent reconnaître le moment de l'endormissement. Mais pour la plupart d'entre nous, bah, au moment de l'endormissement, en fait, il y a une perte de conscience. On sombre dans le sommeil. Et ensuite, la conscience réémerge à travers le rêve. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chacun d'entre nous, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a des gens qui ne se souviennent pas forcément de leur rêve, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la conscience réémerge. Mais étant donné que le corps est en stand-by à ce moment-là, on n'est plus en contact, nos sens sont endormis, donc on n'est plus en contact avec notre environnement biologique, et ben pour la conscience, ça ne pose pas de problème. Elle se fabrique des odeurs, elle se fabrique voilà, des perceptions visuelles, des perceptions auditives, et on rentre dans un monde onirique qui est uniquement fabriqué par la conscience elle-même. C'est l'esprit qui joue avec lui-même et qui se fabrique un sujet avec un environnement, etc. Mais en fait, tout ça a lieu au sein même de la conscience. J'utilise cette image du rêve parce que souvent, on associe le moment de la dharmata, donc post-mortem, à quelque chose qui ressemble au rêve. C'est un peu ce qui se passe. Il n'y a plus de corps, mais l'esprit s'en fabrique un corps de rêve. Et ensuite, on va parler. Je viens de. Que vous pouvez choisir. Et ensuite, on parle du bardo du devenir, c'est-à-dire en fait le moment où la conscience va reprendre renaissance et va chercher un corps. Voilà, ça c'est la vue bouddhiste des choses. Et après le bardo de la renaissance, du devenir, vient le bardo à nouveau de la vie. Et c'est cyclique. Donc du point de vue bouddhisme, en fait, il y a toujours expérience. Toujours. La vie est une expérience, mais la mort aussi. Et on pourrait dire, bah, de ce point de vue-là, finalement, la vie et la mort ne sont pas si différentes que ça. C'est juste des conditionnements qui changent. Donc ça, on en parlera. Je vais expliquer voilà, en détail comment les bouddhistes voient ça. Mais ça s'appuie sur des textes. C'est-à-dire, c'est pas, comment dire, on s'appuie sur l'expérience de quelqu'un d'autre, parce que personne n'a vécu ça. Enfin, on suppose qu'on l'a, dans le bouddhisme, on suppose qu'on l'a vécu, mais qu'on ne s'en rappelle plus, mais personne ne peut le prouver, en tout cas. Aujourd'hui, bah, on a tous une opinion sur la mort. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, que ça s'arrête. Il y a des gens qui pensent qu'il y a quelque chose après la mort, voilà. Puis chacun, on a une opinion là-dessus, mais personne ne sait quoi. Personne ne peut prouver, on ne peut pas prouver qu'il y a quelque chose après la mort. On ne peut pas prouver non plus qu'il n'y a rien. Donc voilà. Mais ça va être intéressant quand même de... Pas d'adhérer forcément à l'idée de renaissance, mais juste de, imaginons, imaginons les deux options possibles. Parce que ça va nous aider au niveau de l'expérience méditative, au niveau de notre expérience. Parce qu'au niveau de notre expérience, on va quand même pouvoir faire l'expérience de la mort. Au sens où la vie et la mort, c'est quelque chose qui est constamment à l'œuvre dans notre quotidien, dans notre expérience quotidienne, et même à chaque instant. À chaque instant, il y a des choses qui apparaissent et il y a des choses qui disparaissent. Au niveau de notre processus, au niveau de l'individu, ce qu'on connaît de l'expérience d'un individu, c'est des pensées, par exemple. Et les pensées, ça apparaît, ça disparaît. Les sensations, ça apparaît, ça disparaît. Nos perceptions, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit les sons, les odeurs, apparaissent et disparaissent. Les situations, pareil, elles se mettent en place, elles durent un moment et puis elles changent. Et on va regarder donc notre expérience sous l'angle de cette impermanence, de voir qu'il n'y a rien dans notre expérience qui puisse être stable. Tout ce qui naît finit par disparaître. Tout ce qui apparaît finit par changer. Tout est en transition constante. Et ensuite, plus on va affiner notre perception de ça, de cette impermanence, plus on va voir que ça s'applique aussi au niveau de la conscience. Au niveau vraiment de l'aspect le plus subtil de ce qu'on est, de l'individu. Et de voir qu'en fait, naissance et mort, vie et mort, c'est pas si séparé que ça. C'est pas si, comment dire, ça nous est beaucoup plus familier qu'on l'imagine, voilà. Parce que c'est notre expérience, c'est notre vécu. Donc voilà, on va parler de quatre bardos, comme j'ai dit, vie, mort, dharmata, devenir, mais parfois on rajoute dans certaines traditions le bardo du rêve et le bardo de la méditation. Mais c'est très arbitraire. Pourquoi on parle, par exemple, pourquoi il y a des traditions qui décident de rajouter le bardo du rêve? Parce que c'est pareil, c'est une expérience qui est assez notable. On n'est pas tout à fait en vie. On n'est pas tout à fait mort. Le rêve, c'est une expérience qui est remarquable en elle-même. Donc on décide de dire, bah, ça, on va parler d'un bardo. C'est un intermédiaire qui est notable. Mais on pourrait en fait en faire plein des bardos, puisque finalement... Bardo, ça veut dire transition. C'est l'intervalle entre un instant et un autre. Et on pourrait, en fait, dans une journée, la découper en centaines, en milliers de bardos. Par exemple, on pourrait dire le repas, c'est un bardo. Le moment du repas. Et puis même au sein du moment du repas, on pourrait parler de, alors, les différents bardos qui constituent le bardo du repas. Alors, dire, il y a l'apéro, puis ensuite il y a le bardo de l'entrée, et puis ensuite il y a le bardo du repas, enfin du plat de résistance, etc., etc. Bardo du fromage, du café, de la vaisselle. Voilà, c'est pour dire que c'est tout à fait arbitraire. Mais surtout, dans le dharma, on parle de bardo parce que ça nous parle. Dans notre vie, dans notre conception des choses, eh ben, on met des débuts et des fins. On est très, Ça nous parle beaucoup, cette façon de voir. C'est très ancré en nous. Le début de ceci, la fin de cela. Et surtout, on nous en parle parce que chaque bardo constitue une opportunité de s'éveiller. C'est ça qui est important, surtout selon le Dharma. À chaque bardo, chaque circonstance particulière, il y a une opportunité de s'éveiller. On peut s'éveiller dans cette vie, on peut s'éveiller au moment de la mort, on peut s'éveiller au moment du rêve, on peut s'éveiller au moment de la méditation. Chaque bardo constitue une opportunité pour s'éveiller, à condition que, ben voilà, on sache faire, on sache reconnaître. Et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas forcément pour faire une théorie intéressante, c'est pour surtout parler de chaque instant a sa nouveauté, chaque instant est singulier, avec des circonstances particulières, des conditionnements particuliers, et donc chaque instant contient un potentiel d'éveil, et comment je m'éveille à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière le bardo, il faut le comprendre en termes d'intervalle entre chaque instant. Et pourquoi on va méditer Donc évidemment, on pratique pour s'éveiller dans cette vie, ça c'est l'idéal. Mais d'un côté, si on rate le coche, c'est pas grave, il y a une opportunité au moment de mourir. Et puis si on rate le coche au moment de mourir, c'est pas grave, il y a une opportunité au moment post-mortem. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc on va nous expliquer ce que sont les bardos, comme ça nous donne une sorte de carte géographique. À chaque fois, si on a bien étudié ce que c'est, si on comprend ce que c'est en termes d'expérience, parce que l'idée c'est ensuite de transposer ça au niveau de notre expérience, et ben on a une sorte de map, voilà, une carte dans laquelle on sait où on se situe, et on sait où on doit aller, on sait comment on doit le faire, comment on doit le faire. En tout cas, voilà, il y a cette, on va parler de la vie, et dans la vie, on sait que quel que soit ce qu'on vit, aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, un jour, tout ça va changer, tout ça va disparaître. Il y a aussi quelque chose qu'on sait par rapport à la vie, c'est que quand on arrive dans ce monde, on est totalement vulnérable, on est totalement nu, vulnérable, et on peut observer que au moment de la mort, et ben c'est ce qui se passe à nouveau. Quand on part, on est totalement nu et totalement vulnérable. Vulnérable au sens où tout ce à quoi on est habitué va nous être enlevé. Donc on arrive en terre inconnue. C'est comme ça que je veux dire vulnérable. Vulnérable, ça ne veut pas forcément dire que le moment de la mort ne peut pas être vécu de manière paisible, voire même, les yeux grands ouverts, voire de même de manière très. Comment dire, ben, je vais dire le mot, hein. Il y a des personnes qui vivent le moment comme une victoire. Pourquoi? Parce que du point de vue bouddhisme, effectivement, la mort, ça peut être vécu de manière terrible. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Si on n'est pas préparé, si on ne sait pas ce que c'est, si on est démuni, eh bien. Le moment de la mort peut être vécu comme quelque chose de très difficile, très dur, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent qu'on peut mourir de manière paisible et même voir la mort comme le couronnement d'une vie qui a été vécue, une vie pleine de sens, une vie où on a pu développer, accomplir ce qu'il y a de plus profond chez un être. Et de ce point de vue-là, le bouddhisme, voilà, considère la mort comme une très grande opportunité. Une opportunité même. Il est dit parfois qu'il est plus facile de s'éveiller au moment de la mort. Et on parlera de ça. Je vous expliquerai pourquoi on voit ça comme ça. Mais en tout cas, nous, dans notre vie, on est nus. Mais entre-temps, en fait, quelque part, on se familiarise avec notre vie, et puis on se familiarise avec notre environnement, mais tout ces situations, cet environnement, ces proches, etc., avec lesquels on se familiarise, avec lesquels on est habitué, avec lesquels on s'attache, et ben, au moment de mourir, il faudra tout laisser derrière. Pour celui qui part, ben, c'est vraiment terre inconnue au sens où on peut pas partir avec nos biens, voilà, on ne peut pas partir avec nos richesses, même si on est propriétaire d'un empire, il faut tout laisser derrière soi. On ne peut pas partir avec nos proches, même ceux qui nous aiment le plus, même ceux qu'on aime le plus, ben, ils n'ont pas le pouvoir de nous accompagner. Et donc, ben, pour celui qui part, il en part. Ce n'est pas une personne qu'on perd, c'est tout le monde. Ça, c'est une expérience de la mort, enfin, qu'on peut comprendre, qu'on peut envisager, qui est très concrète, quoi. La mort, ça va être ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est très attaché à notre corps, beaucoup plus qu'on le pense, parce qu'on est attaché à nos sens. C'est ça, tout ce qui constitue notre vie, elle passe à travers nos sens. Le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de sentir, le fait de comprendre ce qu'on nous dit, le fait d'intellectualiser, bah tout ça, il va falloir aussi lâcher. Parce que, et on voit, hein, parfois ça peut nous mettre très inconfortable, ne serait-ce que de, si on a des problèmes d'audition, même temporaires, des problèmes de vision temporaire, de voir que ça nous perturbe dans notre fonctionnement, quoi. On n'est pas habitué à ça. Et ça peut constituer un problème. Ben, au moment de la mort, on va être aussi confronté à ça, parce que le corps, il peut pas venir avec nous. On va être obligé de le laisser, donc on va être obligé de laisser nos sens progressivement. Alors ça se fait de manière plus ou moins progressive selon la façon dont on va partir. Il y a des gens qui partent très vieux, et donc du coup les sens s'amenuisent petit à petit, et donc c'est un deuil progressif. Après, ça peut être des morts beaucoup plus rapides, et dans ces cas-là, bon bah, il n'y a pas forcément, on voit pas forcément ce processus-là à ce moment-là, mais c'est pour se mettre en situation. La mort, on peut quand même comprendre ce que c'est. C'est pas totalement terre inconnue parce que quelque part, quand on dit on va mourir nu, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, voir de quoi il s'agit. Parce que dans la vie de tous les jours, bah, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. On voit que parfois on obtient certaines choses. Et puis une fois qu'on les a obtenues, bah, parfois on les perd. Ouais, y a plein de choses changeantes, transitoires, etc. On peut faire l'expérience du deuil de nos proches aussi. Même ceux auxquels on était le plus attaché, ils partent et on doit faire cette expérience-là, se confronter à ça. Et c'est important de comprendre que ça arrive à tout le monde. C'est important de comprendre que c'est un processus naturel. Enfin, en tout cas, plus on se familiarise avec ça, plus on s'épargne pas mal de souffrances. D'ailleurs, si on arrive à voir que la mort, bah, voilà, si on perd un proche, déjà que c'est douloureux, quoi. C'est perdre un proche, c'est forcément, si on est attaché, bah, ça a forcément entraîné du chagrin, de la tristesse. Et ça, c'est normal, quelque part, c'est la vie. Mais ce qui peut, comment dire, nous aider, c'est pas d'en rajouter une couche quand on dit, oui, mais pourquoi moi, pourquoi lui? Qu'est-ce que j'ai mérité? Pourquoi il ne mérite pas ça? Vous voyez, ce genre d'idées qu'on peut avoir, bah, si on n'est pas préparé à ce moment-là, si on envisage comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Voilà, ça peut faciliter le deuil de se familiariser avec cette idée-là. Et ce qui va être aussi beaucoup développé dans le dharma, c'est l'idée qu'en fait, la vie, au fond, n'est qu'une succession d'instants présents, une succession de maintenant. Notre vie, finalement, c'est juste des maintenant, 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 maintenant. C'est des petits bardeaux qui se succèdent. Et en plus, on va nous inviter à considérer que il nous appartient de choisir qu'est-ce qu'on en fait de cet instant. Parce que finalement, c'est la seule chose qui nous appartient, l'instant présent. Le passé, on ne peut pas revenir dessus. Ouais, le passé, c'est le passé. Le futur n'existe pas encore. Donc finalement, la seule chose qui nous appartient, qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, la vie, c'est maintenant. Et à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait de cet instant. Il y a un grand maître qui disait que ça pouvait être intéressant d'envisager, par exemple, une journée, notre journée, comme si c'était toute notre vie. On commence la journée, voilà, on se lève et on se dit c'est le début de ma vie. Et puis au fur et à mesure de la journée, on imagine qu'on vieillit, et puis à la fin de la journée, on fait le bilan. Qu'est-ce que je peux dire de ma vie? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que j'ai fait de ma vie, entre guillemets, ce jour? Est-ce que je suis, comment dire, est-ce que j'en suis fier? Est-ce que je suis content de comment je l'ai vécu? Est-ce que j'ai pu donner un sens à cette journée? Est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour améliorer la vie de quelqu'un? Est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour cultiver voilà, de l'appréciation, du contentement, etc. Ou est-ce qu'au contraire, cette vie, j'ai le sentiment de l'avoir gaspillée en courant après des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas vraiment d'importance? Est-ce que finalement j'ai passé ma journée à créer des problèmes, à m'impliquer dans des conflits, ou alors me vautrer dans le mécontentement, la plainte, etc. Parce que voilà, ça peut être un support de pratique, d'envisager notre journée comme étant notre vie, et puis de faire le bilan après. C'est important de faire le bilan parce que ça nous aide à voir, ça éventuellement nous permet de réorienter la prochaine journée. Et au fond, on a le choix. Au fond, c'est ce qu'on va aussi développer dans le Dharma, le fait qu'on est... ça nous appartient. Les instants nous appartiennent et ça nous appartient d'en faire quelque chose. Parce que le moment de la mort, finalement, ne sera pas si différent de la vie. Au moment de la mort, notre état d'esprit ne sera pas si différent de ce qu'on est maintenant. Dans le Bouddha, par exemple, il dit « Nous sommes, ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons fait. » Mais il rajoute « Si on veut savoir ce qu'on sera, bah, faut voir ce qu'on fait maintenant. » D'une certaine manière, en fait, le moment de la mort et le moment de la vie, c'est pas si différent. C'est toujours une histoire de moment, d'instant. Et il y a quelque chose qui peut être très, très profitable en termes de pratique, c'est d'apprendre ce qu'on appelle le contentement dans le bouddhisme. Donc je vais parler un peu du contentement, parce que le contentement, c'est vraiment un enseignement de base. Ce n'est pas un enseignement pour débutants, parce qu'on peut passer sa vie à pratiquer ça et on ne perdra pas son temps, et ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est quelque chose de fondamental. Dans les enseignements du Bouddha, le contentement, c'est vraiment la base. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine d'aller se retirer, faire des pratiques très sophistiquées en retraite pendant des mois et des années, etc. Il y a des gens hein, comme ça qui ont la discipline de faire ça, mais au bout du compte, il n'y a pas la compréhension des fondamentaux du bouddhisme. Et donc, du coup, bah, on continue à cultiver un état d'esprit malheureux, tristounet, mécontent, sans arrêt à... Et bien, quelque part, c'est qu'on n'a pas compris la base de l'enseignement du Bouddha. Il faut revenir à la base, avant de s'engager dans des pratiques beaucoup plus, peut-être plus élaborées. Elles sont élaborées parce qu'elles exigent du pratiquant des fondamentaux, une compréhension fondamentale. Et... la compréhension fondamentale qu'il faut avoir dans le bouddhisme, et ça j'en ai déjà parlé sous plusieurs coutures, c'est le fait que dans le dharma, le contentement, ce n'est pas une finalité, c'est un chemin. C'est un chemin, même si on pourrait dire c'est un choix, c'est une décision. Parce que, on l'a vu, hein, le Bouddha, il parle de dukkha. Et il dit, au fond, tout le monde rencontre la souffrance, tout le monde rencontre des circonstances heureuses, des circonstances défavorables. Mais je vais la faire courte parce que vous connaissez ça. On en parle beaucoup. Mais l'idée d'envisager le contentement non pas comme quelque chose qu'il faut justifier par le fait je suis content parce que j'ai ceci, parce que j'ai obtenu cela, parce que j'ai telle circonstance, etc. Là, on nous invite à envisager le contentement sans justification aucune. Vous voyez où je veux en venir? On est content par choix, parce que finalement, si on commence à justifier le contentement, il y aura toujours des raisons de justifier le mécontentement. Si le contentement, bah, ça dépend des circonstances extérieures. Si le contentement, ça dépend du monde, du fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas, que les gens nous critiquent ou qui nous complimentent, qu'à un moment donné, on soit dans une aisance et puis qu'à un moment donné, on soit dans une précarité, et ben notre bonheur, il sera toujours dépendant du monde. Il sera toujours dépendant de l'extérieur. Et en plus, c'est totalement fluctuant. Donc du coup, ça pourra toujours justifier le mécontentement. Ça serait tout à fait justifié d'être mécontent à chaque fois qu'il y a une circonstance défavorable qui arrive. Mais dans le dharma, on considère que c'est pas comme ça. Et dans notre expérience, c'est ça qu'on nous invite à voir, c'est que finalement, c'est pas comme ça. Il y a des gens, effectivement, qui ont tout, et pourtant, l'impression qu'ils manquent de tout, qu'ils sont insatisfaits, qu'ils sont frustrés, même s'ils ont tout pour être heureux, bah en fait, c'est pas ça qui leur garantit d'être satisfaits, parce qu'au fond, finalement, ça dépend d'eux, ça leur appartient. Et puis on voit aussi l'inverse. On voit aussi des gens, on pourrait dire qu'ils n'ont rien, ou très peu, et en fait, on a l'impression que le monde leur appartient, comme s'ils avaient toutes les richesses du monde à leur portée. Donc on voit que finalement, c'est pas si dépendant des circonstances. Ça ne dépend pas du monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que Ajahn Chah dit. Il dit. Donc Ajahn Chah, c'est un moine bouddhiste, un maître des moines de la forêt. Il a cette citation. C'est quelle joie de savoir que le bonheur n'est pas de ce monde.
N'est pas.
N'est pas de ce monde. Et intéressant, faut la méditer, quoi. Quelle joie de savoir que le bonheur n'est pas de ce monde. C'est intéressant parce qu'il nous dit à la fois le bonheur n'est pas de ce monde, ah bon, mince. En même temps, il dit quelle joie. Parce qu'en fait, c'est ça la vie bouddhiste, c'est si le bonheur ne dépend pas du monde, ne dépend pas des circonstances, parce que sinon, on n'est plus du tout candidat au bonheur. Personne ne l'est. Ou alors, bah, il y a ceux qui sont privilégiés, voilà, ceux à qui on profite du bonheur, et puis ceux qui, bah, définitivement, n'y ont pas accès. Parce que ça dépend des circonstances. Il y a ceux qui ont les circonstances heureuses, bah, eux, ils peuvent être heureux, et puis si on ne les a pas, bah, tant pis pour nous, quoi. Mais ce n'est pas la vie bouddhiste. La vie bouddhiste, c'est quelle joie. Ça n'appartient pas au monde. Donc, c'est no de notre ressort. Ça nous appartient. Et si on le comprend, bah, quelque part, on a un pouvoir énorme. Le pouvoir de choisir. D'être mécontent ou d'être content. C'est un choix, c'est un pur libre arbitre. Parce que finalement, le bonheur, enfin, le mécontentement ou le contentement n'a pas besoin de justification. La vie, elle est comme elle est. Et la vie, effectivement, elle comporte plein de moments, comme on pourrait dire, agréables, plaisants, heureux. Mais là, dans la vie, il y a aussi la perte, il y a aussi le chagrin, il y a aussi voilà, plaisir, déplaisir, le chaud, le froid, des choses bien, des choses moins bien. Mais la vie n'a pas tellement d'intention à notre égard. Elle a pas de... Elle est même pure d'intention à ce niveau-là. Elle est pure parce que il n'y a pas quelqu'un, voilà, une entité qui décréterait, bah, toi, tu mérites le bonheur et toi, tu ne le mérites pas. La vie n'a pas de... n'est ni bien ni mal. Le fait que les choses apparaissent ou disparaissent, ça, c'est la vie. Et elle n'a pas de... comment dire? De ce point de vue-là, elle n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas nécessaire de demander à la vie d'avoir du sens. La vie, elle a seulement le sens d'apparaître et disparaître. Les choses qui apparaissent, elles vont disparaître. Les circonstances favorables, elles passent. Les circonstances défavorables, elles passent. Les circonstances tout court apparaissent, disparaissent. Mais par contre, on est tout à fait libre de donner un sens à notre vie. Ça nous appartient. Plutôt qu'absolument demander à la vie de nous donner du sens, eh ben on peut choisir en fait qu'est-ce que je vais faire de cet instant. C'est de mon ressort. Est-ce que je choisis de consacrer ma journée, mon instant à cultiver l'angoisse, l'anxiété, le mécontentement, voire voilà, créer des problèmes, voire créer des guerres, voire tuer mon voisin. On voit ça, hein, dans le monde. Ou alors est-ce que je choisis bah, de donner un sens à ce moment-là, de donner un sens à cette vie, en cultivant voilà, la paix de l'esprit, en cultivant l'harmonie, en cultivant voilà, faire quelque chose d'utile pour les autres, quelque chose pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, de façon à ce qu'au moment bah, on se retrouve à la fin de notre vie, on puisse faire un bilan, voilà, quel bilan on souhaite faire. Comment on imagine, comment on imagine ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir à ce moment-là? Est-ce que je suis content de ce que j'ai vécu? Est-ce que je peux partir en me disant, bah voilà, j'ai eu une vie qui a eu pleine de sens, j'ai appris à être heureux, malgré le fait que, bah, comme tout le monde, il y a des bonnes circonstances, des mauvaises circonstances, etc. Parce qu'au fond, on est tous à la même enseigne, hein. On a tous voilà, des blessures, on a tous des casseroles, on a tous des trucs voilà, qui nous sont arrivés vraiment qui ont été très difficiles, voire des traumas. Après, on peut aussi apprendre à ne pas seulement focaliser sur ça, parce qu'il y a aussi des trucs bien qui nous sont arrivés, des trucs voilà, dont on a pu se réjouir, des trucs heureux, etc. Mais ce que voilà, ce que le Dharma nous enseigne, c'est finalement, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas des gens qui seraient candidats au bonheur et d'autres pas. En fait, on est tous candidats au bonheur, on est tous candidats au contentement parce que, juste précisément, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas ceux qui, quelque part, récupèrent toutes les circonstances favorables et sont épargnés des circonstances défavorables. C'est, pareil pour tout le monde. Et ça change. Ça peut tout le temps changer. Personne ne sait, ce qui va nous arriver demain. Et en plus, ça nous permet d'apprécier justement, d'autant plus quand ça se passe bien. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas à améliorer les choses, que les choses aillent bien à la fois pour nous, à la fois pour nos proches, en termes de confort, en termes d'aisance, en termes de sécurité. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Ça, voilà, ça ne nous dispense pas de ça, mais en même temps, on peut envisager que même si voilà, ça se passe super bien en ce moment, eh ben, s'il n'y avait pas toutes ces circonstances-là, ça pourrait être OK aussi. Et donc voilà, le bonheur est envisagé comme un chemin, comme un choix, et un entraînement. S'entraîner à être OK avec la vie, avec tout ce qu'elle comporte de... avec toutes les facettes de la vie. On pourrait dire que la vie, en fait, on apprend à l'apprécier, on apprend à l'aimer, mais pour ce qu'elle est. Pas seulement pour les côtés qu'on aime de la vie, mais aussi pour les côtés qui sont la vie, comme la tristesse. Voilà, le deuil de quelqu'un, ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce qu'on a de la tristesse que du coup, on doit se décréter définitivement malheureux. Vous voyez, C'est un passage obligé, on pourrait dire. Une vie complète, enfin, une vie, ça fait, la tristesse en fait partie, le chagrin en fait partie, la douleur en fait partie, la souffrance en fait partie, au même titre que la joie, au même titre que voilà, l'aisance, les circonstances favorables, l'amour, la compassion, ça en fait partie. Mais ce qu'on nous invite à voir, c'est qu'aucune de ces circonstances, on a besoin de les cataloguer comme étant ça, c'est le malheur, et donc du coup, je me décrète comme malheureux parce qu'il m'est arrivé ça. Ou alors, parce qu'il m'arrive ça, je peux me décréter heureux définitivement. Non, en fait, le bonheur est vraiment au-delà de ça. Au-delà de plaisir, déplaisir, au-delà du gain, de la perte, au-delà de, vous savez, hein, les 8 dharmas mondains, considération, inconsidération. Il faut en être convaincu intellectuellement. Ça ne suffit pas d'être convaincu intellectuellement, mais c'est une philosophie. Et enfin, c'est même plus qu'une philosophie, parce que ce n'est pas censé être simplement intéressant, ouais, ça tient la route. On doit voir que ça tient la route parce qu'on le pratique. D'ailleurs, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Le contentement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre du monde, c'est quelque chose qu'on doit décider et puis cultiver, apprendre à composer avec la vie dans tous ses aspects. Comment on pourrait dire? Apprendre à être OK, et plus qu'être OK, apprendre à ouais, à accepter, à apprécier. Et ce que ça induit dans notre esprit, c'est l'idée qu'on est content. Alors, content, je ne sais pas si le mot vous parle, on pourrait dire satisfait, mais dans le bouddhisme, on va partir du fait qu'on est fondamentalement heureux. Et même, on va développer, hein, on va développer très très loin cette idée jusqu'à en avoir la réalisation. Dans notre quotidien, c'est une idée qui nous paraît peut-être farfelue, parce que l'idée qu'on a, c'est notre perception est très limitée. On se limite à moi et mes petits problèmes, je suis ceci, je suis cela, je suis mes petits problèmes, etc. Mais dans le dharma, le but de la pratique, c'est de révéler, de réaliser que non seulement on est bon par nature, mais plus que ça, on est Bouddha par nature. On ne dit pas l'homme est bon par nature, on dit l'être est Bouddha par nature. Non seulement on est candidat au bonheur, mais beaucoup plus que ça. Par nature, on est absence de souffrance, mais beaucoup plus que ça. Par nature, on est éveil complet de toutes les qualités de l'esprit qui sont à vie. On est riche, on a un potentiel qui est totalement infini et qui est même inconcevable. La seule chose qui nous limite, c'est nous-mêmes. L'idée qu'on s'en fait. Un malentendu sur ce que nous sommes. Une perception étroite et très erronée de ce que sont les choses et de ce que nous sommes. Et le chemin du dharma, c'est ça. C'est pas un chemin où on part d'un « voilà, je suis limité, et puis un jour je serai illimité ». Le chemin du dharma, c'est « je suis illimité », et le chemin consiste à enlever tout ce qui m'empêche de le reconnaître. À enlever les couches de voile qui m'empêchent de reconnaître cette nature illimitée. Et ça peut commencer par induire dans notre esprit qu'à la base on est heureux et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Qu'on ne va pas demander au monde de justifier le fait qu'on soit malheureux ou heureux parce que. Bah parce qu'effectivement, c'est. Si on demande ça, bah on n'est pas candidat pour être heureux. On dépendra toujours de quelque chose. Et une conviction intellectuelle, c'est important. Même si ça ne suffit pas, avoir une conviction en observant les choses, en observant que finalement, les choses qui arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont pas de notre sort, ça va être important pour mettre en application bah, ce choix, cette décision d'être heureux en toutes circonstances. Apprendre, s'entraîner à être heureux en toutes circonstances. Heureux, ça ne veut pas dire « ouh ». C'est vrai que je dis heureux, mais ça ne veut pas dire que quand il nous arrive une tuile, eh ben on doit sourire en disant c'est génial, c'est super. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment C'est savoir le prendre avec du recul, savoir comprendre que même s'il m'arrive ça, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas quelque chose où je dois nécessairement être malheureux, me décréter malheureux parce qu'il m'arrive ça. Je peux rebondir, je peux traverser, je peux continuer à avancer, je peux passer à autre chose. Et donc je ressors ma citation préférée de Shantideva qui dit « Si le problème a une solution, pourquoi s'en faire ? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire ?» Elle est très profonde et si on arrive vraiment à avoir une assurance que c'est vrai, que ça se vérifie, du coup on sera d'autant plus enclin à appliquer cette pratique du contentement, plutôt que d'attendre que le contentement vienne. Si le problème a une solution, pourquoi s'en faire ? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire ? Voilà. Il y a ce qui est de mon ressort, et si c'est de mon ressort, tant mieux. Si ce n'est pas de mon ressort, je fais de mon mieux. Je continue à faire de mon mieux, mais n'empêche que si ce n'est pas de mon ressort, il n'y a pas lieu de se débattre, il n'y a pas lieu d'être malheureux. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas lieu d'être malheureux, pourquoi pas être heureux ? Ou alors, ça rejoint les quatre nobles vérités, hein, c'est notre façon de présenter les quatre nobles vérités. Hein, c'est juste pour comprendre, et il n'y a pas que le bouddhiste qui dit ça, il y a une amie qui m'a écrit récemment et qui m'a cité un auteur qui s'appelle Paul Claudel, que je ne connais pas, mais qui disait « Le bonheur n'est pas une finalité, le bonheur est un moyen. » Elle me disait que cette phrase, en fait, l'avait beaucoup touchée et l'avait beaucoup aidée dans son cheminement. Et ben c'est intéressant parce que ça pourrait vraiment résumer les fondements du bouddhisme. Voilà, le bouddhisme n'a pas le copyright de ça, quelque part, dans beaucoup de philosophies occidentales, orientales. Il y a des gens qui sont parvenus à cette conclusion. Qu'en fait, si on attend que le bonheur arrive, on peut toujours attendre, quoi. Par contre, on peut faire le choix, on peut décider. Et quand je dis c'est le fondamental, oui, c'est vraiment les fondements. C'est-à-dire tant qu'on n'arrive pas à cette conclusion-là et qu'on ne met pas en pratique, on ne pourra pas aller plus loin. Et ça demande en fait à confronter quoi. Moi je suis prêt à remettre ça en question. Hein. J'ai pas envie de perdre mon temps avec une philosophie où je continue à me raconter des histoires si ça tient pas la route. Donc s'il y a quelqu'un moi qui me dit non il y a une faille là-dedans ça tient pas la route, je prends quoi. Je suis preneur. Je suis client parce que ça va me permettre aussi. Moi, je suis convaincu de ça, mais intellectuellement. Hein. C'est-à-dire en pratique, je m'adonne largement aussi au mécontentement, à la frustration, etc. Je suis fort pour ça, quoi. Mais, quelque part, avec la conviction intellectuelle, je finis toujours par me dire que, au bout du compte, ça tient qu'à moi, quoi. Que faire porter le chapeau sur les autres, c'est vraiment... Quelque part, ça ne marche pas. Mais après, voilà, c'est intéressant aussi de voir quelqu'un qui va me dire « Ton truc-là, le contentement en tant que libre-arbitre, j'y crois pas, quoi, ça ne tient pas la route. » Et si j'arrive, en fait, si on arrive à débattre et si finalement, je vois que ma philosophie tient quand même la route, je vais gagner en assurance là-dedans et puis persévérer, etc. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que si on arrive avec un état d'esprit qui s'est familiarisé avec le fait d'être heureux sans justification, au moment de la mort, ça va être vachement utile. Parce qu'au moment de la mort, effectivement, toutes les justifications elles vont disparaître. Au moment de la mort, on va vraiment arriver nu. C'est-à-dire tout ce qui est les choses auxquelles on pouvait être attaché en termes de choses temporelles, circonstancielles, les proches, les biens, le corps, les sens, etc. Tout ça va nous être enlevé. Et à ce moment-là, bah, on pourrait nous dire « j'ai aucune raison d'être heureux à ce moment-là, si tout m'est enlevé ». Sauf si, effectivement, on découvre que le contentement ne dépend pas de ça, que le bonheur ne dépend pas de ça. Si on a développé cet état d'esprit, au moment de mourir, bah, quelqu'un en fait, qui a s'est entraîné toute sa vie, je pense qu'on peut ne pas se faire trop de soucis pour lui. D'autant plus que dans les textes, il est dit que le moment de la mort, finalement, c'est juste un passage, que ce n'est pas une fin en soi, que ça continue, mais que la suite du voyage est largement influencée par la pensée qui accompagne le dernier souffle, par l'état d'esprit qui accompagne le dernier souffle. Donc si quelqu'un meurt de manière paisible, confiante, en ayant le sentiment que sa vie, voilà, qu'il a fait de son mieux dans sa vie, qu'elle a eu un sens, qu'il n'a pas passé sa vie à torturer des gens, à créer des problèmes, etc., à se complaire. On dit qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour une personne comme ça. Par contre, effectivement, si on part avec l'esprit plein de regrets, l'esprit qui regarde en arrière, l'esprit qui se morfond et la peur au ventre, etc., bah c'est sûr, la suite du chemin sera l'image de l'état d'esprit et ne sera pas forcément favorable. Donc c'est pour ça que c'est un enseignement qui est profond. C'est un enseignement fondamental, mais ça ne veut pas dire pour débutants. Ça veut dire que c'est quelque chose à cultiver, c'est le travail d'une vie, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Moi, il me semble que dans ce que vous dites, la part à la raison est trop importante.
La quoi?
La part laissée à la raison. Je vais orienter. Et c'est faire fi des émotions qui nous envahissent. Et si on a la chance d'être heureux, si on a la chance de s'apercevoir qu'on a de la chance d'être heureux, et bien toutes ces choses viennent naturellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'alimenter par la raison, parce que mais pas. Mais je suis d'un naturel optimiste, même si parfois je m'abandonne au cynisme, je pense que c'est plus oui, un naturel, comme on dit. C'est pas raisonné. Je ne sais pas comment dire, mais je
oui,
me casse pas la tête.
Ah, mais, c'est clairement le cas. C'est clairement, on considère dans le dharma que le fait d'être heureux est naturel à l'esprit. C'est la nature fondamentale de l'esprit. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui voile cette nature? Les anciens. Qu'est-ce qui voile cette nature? Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser qu'on est fondamentalement? Qu'est-ce qui, mais tous les jours, qu'est-ce qui en fait nous empêche de réaliser
ça?
Les kleshas. Les kleshas. L'aversion, l'attachement, l'orgueil, la jalousie, l'indifférence. C'est pas quelque chose qui font partie de notre nature, mais c'est quelque chose. Si on a de la saisie par rapport à ça, si on se laisse emporter par les kleshas, clairement ça voile notre joie intrinsèque. Par contre, si on en est libre, quelles que soient les circonstances, si on est libre de ces kleshas, il n'y a rien quelque part qui pour quelqu'un, alors là je parle vraiment d'un haut niveau de réalisation, de quelqu'un qui a vraiment un entraînement conséquent, qui fait que il ne laisse plus la place aux kleshas. Il n'y a plus de place pour les kleshas. À ce moment-là, il n'y a rien qui peut endommager la paix de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit dans son état naturel, et donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'on est tous candidats. Parce que c'est, on parle de l'esprit au sens tout le monde. Bonne soirée.
Par contre, où la raison peut être intéressante, c'est de se persuader qu'on n'est pas un ego, qu'on n'est pas un individu, une personne indivisible, qu'on fait partie d'un tout. Et il me semble que dans le bouddhisme, on n'aime pas trop ce concept d'un tout. Et pourtant, le fait de se sentir séparé d'un tout, eh ben, ça alimente l'idée de l'ego. Alors, je sais bien qu'il faudrait...
Non, en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que précisément on n'est pas séparé. Mais c'est vrai que quand on dit l'éveil s'effondre dans un tout, et ben cette formulation, elle est aussi sujette à confusion. Mais en même temps, il y a du juste là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un justement qui, il s'agit pas de se convaincre, hein, il s'agit de faire l'expérience qu'en fait notre expérience n'est pas quelque chose de séparé. Il n'y a pas de pensée individuelle. Il n'y a pas de... comment dire on rapporte toujours ça à mon expérience. Mais en fait, du coup, on se limite. C'est-à-dire quelqu'un qui, justement, arrive à se libérer de ça, et ben chaque instant, en fait, il fait un avec l'instant. C'est-à-dire quand on regarde... un papillon, si on est dans une expérience directe, sans fabrication, en fait, on fait un avec le papillon. Il n'y a pas, voilà, moi d'un côté, puis le papillon d'un autre. On fait, la conscience, en fait, se porte sur le papillon et on fait un avec le papillon. On fait un avec l'instant. Et l'idée de la pratique, c'est d'arriver, en fait, à chaque fois, à se fondre dans l'instant. Arrêter de s'identifier à ceci, cela, qui vit ceci, qui vit cela, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon, c'est pas bon pour moi, pour comprendre qu'en fait, on n'est que des instants. Nous sommes des instants. Et à partir du moment où on ne s'envisage pas comme séparé, quelque chose, bah on fond dans l'instant et donc tout se laisse apprécier. Parce que l'instant et nous ne sont pas, c'est pas quelque chose de distinct. Et c'est vrai que quand quelqu'un dit oui, donc on fond dans un tout. Non, c'est pas vrai, on ne fond pas dans un tout parce que si moi je fais l'expérience d'être totalement en communion avec l'instant, de faire un avec l'instant, ça ne veut pas dire que l'autre en face fait pareil. C'est pas en fond dans un tout où du corps, du coup, nos consciences se mêlent et il suffirait qu'il y en ait un qui soit dans une conscience d'éveil pour que ça fasse le job pour tout le monde. C'est pas le cas. Non, pour certains, en fait, on a des fabrications mentales, des visions erronées qui font qu'on est sans arrêt en train de s'envisager comme individu séparé. Ça, c'est ma pensée, ça, c'est... Il y a la pensée, puis il y a moi d'un côté. Il y a l'émotion, puis il y a moi d'un côté. Puis il y a l'instant, puis il y a...
Je pense, vous évoquez l'image du papillon. Et je trouve... Oui, c'est une bonne image, mais en même temps, je voyais l'inverse. Et quand je vois une araignée, c'est la peur qui... Ça y est, c'est parti. Et ça, je suis bien séparé de l'araignée. Hein. Ça, on ne peut pas raconter des histoires. Ouais. C'est trop, hein, ça, c'est... Ouais.
Et qu'est-ce qui sépare à ce moment-là? C'est le cliché. C'est le cliché. Mais ce n'est pas le cliché en lui-même.
Oui.
Pas seulement, parce que, effectivement, le cliché peut juste être reconnu comme une expression de la conscience à ce moment-là. Mais immédiatement, on s'envisage comme moi menacé par l'araignée. Donc, effectivement, pour pratiquer. Le contentement, bah, quelque part, il faut apprendre à pratiquer sur le mécontentement. Le mécontentement, c'est comme une maladie. C'est vraiment quelque chose... Puis c'est une maladie grave, quoi. C'est une maladie qui touche plein de monde. Comment ?
Il y a beaucoup de gens malades.
Mais le mécontentement, c'est vraiment la racine. Vraiment la racine de plein de problèmes. Et il y a peu de maladies qui font autant de dégâts que le mécontentement. Même il y a des maladies en grave qui n'ont pas le pouvoir de nous rendre malheureux. Mais le mécontentement, ça nous rend malheureux en un instant. D'ailleurs, avant de pouvoir pratiquer en conscience, ben c'est là-dessus qu'on travaille, quoi. Le fait de se décréter sans arrêt, de focaliser sur ce qui ne va pas. C'est vraiment une histoire de focus. Sans arrêt en train de focaliser sur ce qui ne va pas, mais heureusement, la vie est sans arrêt en train de nous titiller, de nous mettre au défi de travailler là-dessus. de nous mettre au défi de, bah, quelque part, d'apprendre à être content, même quand les circonstances ne vont pas. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas le choix. Un voisin qui m'appelle et qui me dit que... Non, imaginez que qu'un ami vous appelle. J'ai envie de parler de la situation sans en parler. Alors comment je vais présenter ça? J'ai un proche, par exemple, qui récemment, ouais, va se reconnaître. Parce que je suis en train d'enregistrer, donc peut-être que je ne le mettrai pas en ligne. Mais, comment dire, il y a des choses, par exemple, qui nous font partir au quart de tour. Des choses, moi, il y a des choses qui me font partir au quart de tour, alors que l'autre, en face, tranquille. Et puis, d'un autre côté, il y a des choses dont on me parle, où je me dis, bon, bah, moi, dans ce domaine, j'ai plutôt tendance à gérer en me disant, c'est pas grave, et je vois la personne qui part au quart de tour. Mais je ne suis pas condescendant là-dedans. On voit bien que ça dépend des gens, et puis que parfois, ça peut nous paraître démesuré, mais pour la personne, c'est très important. Donc, un de mes proches, sa glycine s'est effondrée pendant la nuit. Elle avait une belle glycine qui longeait le mur de sa maison, qu'elle entretient depuis des années, magnifique quoi. Et le matin, elle découvre que pendant la nuit, la glycine s'est effondrée quoi, trop lourde, basculée, donc elle a arraché. Et vraiment, elle était hors d'elle-même quoi. C'était vraiment très très contrariée. Et tellement contrariée que le compagnon, il allait en prendre pour son grade quoi. Il commençait à appeler, j'ai des coups de fil, etc. Ça montait dans les tours. Et bon, bah moi, d'un mon côté, j'étais embêté pour elle. Mais en même temps, bon, bah moi, la glycine, j'étais en train de me dire, voilà, c'est une glycine, quoi, ça va repousser. En plus, elle n'est pas si endommagée que ça. On va la réparer. Effectivement, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir tailler dedans. Bien sûr, je n'allais pas me permettre de lui dire, ouais, voilà, c'est bon, quoi, c'est une glycine. Ça aurait été très, très maladroit parce que je comprenais que, bah non, pour elle, c'était très important, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. Et en plus de ça, il y a d'autres tuiles qui arrivent par-dessus. Et là, je sens que la personne, elle est sur le point de rupture. C'est-à-dire, soit elle pète complètement les plombs, soit elle décide de se calmer, parce qu'il n'y a pas le choix. Et elle a fait le choix de se calmer. Et ça nous arrive, ça. Il y a des moments, en fait, où on se dit, mais presque par survie, quoi. Je ne vais pas me pourrir la vie pour ça. Je ne vais pas tuer quelqu'un pour ça. Même si parfois il y a des pensées qui s'élèvent dans l'esprit, quoi. Et ça arrive, hein, y a des gens qui, par émotion, en viennent à tuer le chien du voisin parce qu'il aboie trop fort. Vous voyez, des choses comme ça, voire pire. Mais là, la personne, en fait, elle s'est repris. Et non, c'est trop. Et parce que c'est trop, bah, ça fait un espèce de... Ça s'auto-annule, quoi. C'est soit je vais encore plus loin et là, je fais quelque chose d'irréparable, soit je me cale. Et puis à la fin, elle m'a dit, en fait, ça va, je suis... d'un moment, quoi, ça a pris un peu de temps, et puis elle m'a dit, mais en fait, je suis fier parce que, à un moment donné, j'ai réussi à lâcher prise. T'as vu, j'ai réussi à lâcher prise. Et c'est chouette parce que la vie va nous apporter des choses comme ça, où on voit que finalement, on décide de ne pas céder au mécontentement. On décide d'être quand même heureux. On décide de quand même continuer à vivre, quoi. Parce que la vie nous renvoie que, bah, elle nous taquine, quoi. Je te provoque, tu crois que tu vas avoir un contrôle, tu crois que... Non, en fait, elle nous invite toujours, fondamentalement, la vie nous invite toujours à être plus heureux, à se dépasser, à être plus libre. C'est ça qu'on pourrait donner comme sens à la vie, c'est que finalement, la vie ne nous veut pas de mal. S'il nous arrive ces trucs-là, c'est toujours une invitation à aller plus loin. En tout cas, dans la voie bouddhiste, on considère ça. On considère que finalement, tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui soit vraiment un obstacle au bonheur. Ce qui nous arrive, on peut l'utiliser comme un tremplin, justement. Un tremplin à découvrir qu'on peut être libre de tout ça. Vraiment. Mais parfois, c'est des petits trucs hein, qui nous mettent à l'épreuve. Hein. Pour elle, c'est la glycine. Pour moi, ça peut être vraiment des trucs parfois insignifiants, mais ça nous montre quand même où est-ce qu'on en est quoi, sur la voie. Le plus on s'entraîne sur des petites choses comme ça, enfin des petites choses, des trucs, il n'y a pas mort d'homme, quoi. c'est du matériel, c'est de la glycine, etc. On est capable de prendre du recul. Parce qu'on voit qu'autour de nous, il y a des choses bien plus graves, quoi. Plus on sera capable, justement, de faire face, petit à petit, à des choses plus costauds. Voir le deuil, voir ensuite la vieillesse, la maladie, la mort, être capable de vivre ça sereinement. Voilà, on va s'arrêter là. On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul établir en cet état tous les êtres.
Merci.